Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons François Trahan, analyste macroéconomique, économiste, ancien stratège en chef chez Bear Stearns, un des grands noms dans le monde de l'investissement à Wall Street, mais aussi diplômé de l'Université de Montréal. François Trahan, vous êtes connu pour avoir présidé la bulle des dot-com en 2000 et l'éclatement de la bulle immobilière en 2007, la crise financière qui s'en est suivie. Hein. Aujourd'hui, vous êtes président et fondateur du Macro Institute. Me manque-t-il quelque chose et pouvez-vous nous dire ce qu'est le Macro Institute?
En fait, c'est une plateforme d'éducation en macro appliqué pour les marchés financiers. C'est un programme, on offre un programme qui est un peu l'équivalent du CFA, mais d'une manière top-down, donc d'une approche macro.
Parfait. Bon, mais justement, on en parle. Vous êtes fait un nom à Wall Street pour être un des grands analystes macroéconomiques. À une époque, vous me disiez, là, il y en avait très peu, voire pas du tout, voire aucun. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est qu'une analyse macro versus une analyse micro dans le monde de l'investissement et des marchés financiers?
Oui. Alors, bien, la majorité des stratèges à New York, c'est des anciens analystes financiers. Donc, c'est des gens qui connaissent leur compagnie très bien. Et généralement, dans une grande banque, quand ils ont besoin d'un stratège, je ne dirais pas que c'est un peu la première personne qui lève la main, mais c'est souvent des analystes qui prennent ces rôles-là. Alors, c'est des gens qui sont des experts dans l'analyse des compagnies, mais qui ne comprennent pas nécessairement le cycle économique. Alors, une analyse macro, bien, ça commence avec la compréhension de la politique monétaire, de la politique fiscale, l'implication que ça a sur le cycle économique et ce que ça veut dire pour les bénéfices des compagnies, le marché boursier, le marché obligataire, etc. Alors, on appelle ça en anglais l'approche top-down, qui est un peu en contraire de l'approche bottom-up, qui analyse les compagnies. Alors, ce que tu disais un petit peu, c'est que au début de ma carrière, j'étais un peu le seul stratège qui avait une approche macro. En fait, je pense que j'étais le seul à une grande banque américaine. Tous mes compétiteurs étaient des gens qui avaient été des analystes financiers. Alors moi, je pourrais pas analyser une compagnie et sauver ma vie. J'ai jamais fait ce parcours-là.
Comment un investisseur solo, qu'on appelle dans le jargon retail, donc un salarié là, qui gère ses propres investissements, en prévision de sa retraite, pourrait-il appliquer une analyse macro là, prenant en compte que ce n'est pas un expert? Et donc, en faire bénéficier son portefeuille ou du moins sa prise de décision en matière d'investissement?
C'est pas une question facile parce que je te dirais que jusqu'à tout récemment, même quand je te parle de la première partie de ma carrière, le mot macro était considéré un peu sale aux yeux de beaucoup d'investisseurs, comme les investisseurs légendaires comme Warren Buffett, qui parlent de. Bien, qu'eux, ils font de la recherche sur leur compagnie. Ils aiment connaître les gestionnaires de la compagnie. Ils aiment tout comprendre. Alors, c'est un peu l'histoire de Wall Street jusqu'à la crise financière, je dirais, où les marchés ont commencé à être dominés par la macro. Alors, dans les 15 dernières années, bien, le type d'analyse que moi, je fais est devenu beaucoup plus populaire. Et maintenant, tout le monde aime utiliser le mot macro, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas vraiment formé en macro. Et c'était un peu ça le but de créer cette plateforme d'éducation-là, c'était de pallier un peu à un désavantage que les investisseurs avaient. On est formé quand on fait un diplôme en finance, bien, on apprend comment analyser des compagnies. On fait une certification comme le CFA, on apprend comment analyser des compagnies. Il n'y a pas vraiment beaucoup de macro du côté académique ou dans les certifications professionnelles. La bonne nouvelle pour les investisseurs retail, donc il faut avoir les connaissances de certains. Il y a beaucoup de choses en ligne, mais je dirais que sur les médias sociaux, selon mon expérience, la majorité du contenu n'est pas nécessairement très bon. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'outils financiers maintenant qui sont disponibles aux investisseurs retail qui n'existaient pas il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, on peut acheter un indice qui est l'inverse du S&P 500 ou l'inverse doublé du S&P 500. On peut acheter des indices qui sont axés sur certains facteurs spécifiques. Donc, ils vont mettre l'emphase seulement sur des compagnies qui ont certains traits spécifiques. Et donc, maintenant, à peu près n'importe qui peut répliquer les, les stratégies que jusqu'à maintenant étaient un peu réservées aux hedge funds, si on veut. Alors, il y a beaucoup d'outils disponibles. Mais quant à la connaissance, ça, ben, il n'y a pas de solution facile. Alors, selon moi, ce qui est important, c'est de comprendre peut-être un produit et de le comprendre très bien. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un investisseur retail connaisse vraiment une compréhension assez large pour pouvoir utiliser à peu près n'importe quoi.
Il y a une multiplication des produits financiers aussi dans les quoi, 10 ou 15 dernières années. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Pour en faire un peu de recherche sur le sujet, je sais qu'il y a des critiques là, de ce qu'on appelle les ETF, là, les fonds négociés en bourse en français, qui nous disent que c'est une bulle aussi en venir. Je résume, là, mais les fonds négociés en bourse vont indexer, par exemple, le S&P 500, où ils vont acheter proportionnellement au market cap de chaque entreprise un nombre proportionnel au l'argent ou capitaux qui sont investis dans le fonds sans vraiment se poser de questions macro ou micro. Certains disent qu'il y en a peut-être une bulle des fonds négociés en bourse là, qui couvre, si je peux dire. Est-ce que vous voyez la chose d'un bon œil ou d'un mauvais œil?
Ça dépend un peu de la perspective, je dirais. Écoute, pour quelqu'un qui est jeune, qui a un horizon d'investissement qui pense aux 30 ou 40 prochaines années, ben, on n'a pas besoin de préoccuper de ces choses-là trop, je dirais. Et c'est des produits qui nous donnent accès à un indice à peu près. Alors, dans ce cas-là, moi, je pense que c'est une bonne chose. Initialement, la majorité de ces produits-là ont été développés pour le milieu institutionnel, principalement les hedge funds, mais ils ont été adoptés par beaucoup d'autres investisseurs. Alors, il y a vraiment deux côtés de la médaille quand on a une discussion là-dessus. Mais c'est certain que il y a tellement de produits, il y en a beaucoup qui ne sont pas liquides, en fait. Alors, c'est probablement la première chose à regarder, c'est est-ce que j'achète quelque chose que je vais être capable de vendre quand je vais vouloir le vendre? La crise financière nous a rappelé l'importance de la liquidité dans les investissements. Alors, selon moi, c'est la première chose, parce qu'il y a 1000 produits qui répliquent la même chose en bout de ligne, mais il y en a seulement 3 qui sont vraiment viables parce qu'ils ont assez de liquidités pour qu'on puisse acheter sans que ça ait un impact négatif sur le prix.
Et juste avant qu'on passe à la prochaine section, pouvez-vous nous donner un exemple rapide d'une analyse macro? Si on prend l'environnement actuel, si on peut dire, quels seraient les éléments que vous prendriez en compte et comment est-ce que vous établiriez des liens entre eux?
OK. Alors, depuis la fin des années 30 aux États-Unis, c'est pas tellement différent au Canada ou dans tous les pays développés, il y a une variable qui a une plus grosse influence sur les cycles économiques que les autres, et c'est les taux d'intérêt. Donc, je te dirais que pour toutes les économies de consommation, donc les économies développées, puis les États-Unis, c'est un peu l'extrême, parce que 68 % du PIB vient de la consommation. Alors, les taux d'intérêt déterminent à peu près tout ce qui va arriver au niveau de l'économie. C'est sûr que la politique fiscale, il y a d'autres influences qui vont jouer également, mais en bout de ligne, quand la Fed coupe les taux, mais on sait que l'économie va probablement être en reprise. Quand la Fed hausse les taux, on sait qu'éventuellement, on va avoir un ralentissement. Maintenant, la chose importante, c'est de comprendre que ça prend beaucoup de temps. On parle de 2 ans à 2 ans et demi avant de voir l'effet d'une hausse des taux de la Fed sur l'économie. Et selon mon expérience, c'est trop long pour l'investisseur typique. Ils ont beaucoup de temps pour se convaincre que cette fois-ci, c'est différent. Ça ne fonctionnera pas pour telle ou telle raison.
Et ça, je dirais que c'est une constante.
Oui, c'est ça. Mais je te dirais que c'est une constante que j'ai vue à la fin de tous les cycles de la Fed, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Je me souviens, en 2009, personne ne pensait qu'il y aurait une reprise éventuelle malgré tout le stimulus que la Fed avait mis dans le système. Et je dirais que c'est un peu la même chose en ce moment. Tout le monde pense qu'il n'y aura pas de ralentissement économique parce qu'ils ont haussé les taux et il ne s'est rien passé. Mais c'est à peu près tout le temps comme ça. Alors, selon moi, je suis habitué de voir qu'à la fin de la hausse des taux, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un soft landing. Je dirais que c'est à peu près normal. Hein.
Parfait. Je résume les 15 dernières années économiquement ici. Nous sommes passés proches d'une dépression similaire à celle de 1929 avec la crise de 2007-2009. Nous avons vécu une rehausse des marchés de l'économie contre toute attente, essentiellement depuis 2009, comme vous venez de le mentionner. À l'exception de la récession éclair causée par la pandémie, nous sommes ensuite passés, et je cite ici, des plus bas taux d'intérêt en 4000 ans. Fin de la citation, c'est ce que Jim Grant, analyste de Wall Street, disait tout au long des années 2010 jusqu'à tout récemment. Pour ensuite vivre une remontée spectaculaire des taux à 5 % les plus élevés depuis 2007, donc depuis la dernière crise, et ça, un niveau de dette publique largement plus élevé. Et malgré ça, les marchés financiers, aujourd'hui, fracassent des records malgré les taux très élevés et au moment où on semble entrer dans une période de baisse de taux. Est-ce qu'il me manque un événement important là, sur la même période?
Mais il y a eu plusieurs crises qui se sont passées dans les années 2010. On a eu la crise en Grèce en 2015. On a eu quelque chose de similaire en Espagne, en Italie, etc. Donc, c'était un peu le hangover de la crise financière. Donc, le fait que ces économies-là avaient beaucoup de dettes, alors ils ont eu un peu plus de difficultés à sortir de la crise financière, si on veut. Mais non, c'est un bon résumé tout à fait. Et je pense que le fait qu'on a passé la majorité des 15 dernières années avec des taux d'intérêt à zéro, mais ça a aussi changé la perspective des gens. Il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont jamais vu une hausse des taux, une vraie hausse des taux. Pas ce qu'on a vu en 2017-2018 aux États-Unis, mais quelque chose de plus comme 2004 à 2006 ou ce qui se passe en 1999. Alors, je pense que c'est plus facile de penser que ça va être différent cette fois-ci quand on n'a pas vécu ces choses-là, qu'on n'a pas vu les surprises qui arrivent au fil du temps.
Donc, plus particulièrement, notre époque économique est-elle structurée et encore et toujours, je devrais dire, par la crise financière de 2007-2009 et l'interventionnisme des banques centrales dans leur application des politiques monétaires qu'on appelle communément « quantitative easing », l'assouplissement quantitatif, je crois, en français. Est-ce qu'on est dans une époque... Bon, on a dit tantôt là, que c'est dangereux de dire que cette fois-ci, c'est différent, mais est-ce que l'époque économiquement, à cause principalement des politiques monétaires, de quantitative easing, différente?
La politique monétaire de la Fed dans les 15 dernières années est un peu une déviation de ce qu'on avait dans les 30 ans qui ont précédé. Disons, je te dirais que c'est vraiment sous Volcker qui arrive à la Fed en 1978 et qui a changé l'institution. C'est devenu l'institution qui est axée sur... jusqu'à là, c'était une institution keynésienne qui est devenue plus une institution monétariste. Donc, qui avait une approche complètement différente. Alors, c'était un gros changement. Mais c'est un peu la crise financière qui a fait qu'on a eu besoin de ces outils-là. Tous les modèles de la Fed leur disaient à l'époque que les taux d'intérêt zéro n'étaient pas assez pour avoir une reprise économique. Maintenant, alors je pense que c'était approprié en 2009. Je ne sais pas si c'était encore approprié quelques années plus tard, mais c'est devenu un peu, ça fait partie de l'engrenage maintenant. Alors, je pense que tous les gens à la Fed, ils auraient le réflexe de retourner vers ça si on avait un ralentissement économique sévère. Et pour moi, un ralentissement économique sévère, c'est différent d'une crise financière comme on a eu en 2009. Mais je pense que c'est devenu un peu un réflexe des banques centrales modernes.
Que peut définir un peu ou expliquer un peu c'est quoi l'assouplissement quantitatif? C'est pas nécessairement un concept que le commun des mortels connaît ou maîtrise.
Oui. Alors, l'outil principal d'une institution comme la Banque du Canada ou la Fed, c'est de changer les taux de base. Et il y a plusieurs banques centrales à travers le monde qui font plus que ça, qui vont changer les taux de réserve. Entre autres, la Banque centrale en Chine fait des changements des taux de réserve assez fréquemment. Faisait ça beaucoup, en fait, durant leur bulle spéculative. Alors, en 2009, il y a un ralentissement, il y a une crise financière aux États-Unis, et les modèles de la Fed leur disent qu'il devrait y avoir des taux négatifs. La manière d'atteindre ça, mais commence à faire, puis c'était un peu le début du quantitative easing qui devient le quantitative tightening. C'est qu'ils commencent à faire des opérations sur les marchés en achetant des obligations et en vendant des obligations. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on injecte la liquidité dans le système et on retranche la liquidité dans le système. Alors, c'est un outil alternatif. Je ne sais pas si ça devrait faire partie de l'arsenal commun des banques centrales, mais c'est un peu devenu comme ça, je dirais.
Devenu la norme, on dirait.
Oui, c'est ça. C'est difficile de s'en débarrasser une fois qu'on l'a utilisé, je pense.
Oui, on en devient dépendant. Vous êtes connu pour avoir annoncé et anticipé la bulle du dot-com et la crise financière de 2007-2009. Comment l'avez-vous vu venir? En gros, quels éléments ont fait sonner la cloche qui disait « Ah oui, en effet, il y a quelque chose qui cloche, justement. »
Oui. Mais j'ai une approche très monétariste. Ce qui veut dire que quand la Fed hausse les taux, ben, je m'attends à ce qu'il y ait un ralentissement économique. Ça ne veut pas dire qu'on sait qu'il va y avoir une crise financière nécessairement. Qu'on ait la Fed hausse les taux de 2004 à 2006, je ne sais pas qu'il va y avoir une crise financière. Je sais qu'il va y avoir un ralentissement. Je sais qu'il y a beaucoup d'excès au niveau du marché immobilier à l'époque. Mais un ralentissement économique, pour moi, c'est un peu un processus de découverte. Plus l'économie ralentit, plus il y a de pression sur le système et plus la probabilité que quelque chose brise augmente. Alors, en économétrie, quand on regarde les modèles qu'on a pour faire des prévisions du cycle économique, les plus grosses erreurs sont tout le temps dans les récessions, où le modèle va dire ben, le PIB va être en baisse de 2 % et puis on a quelque chose de bien pire. Parce que ce qu'on ne peut pas modéliser, c'est les crises financières. Et on ne les voit pas dans tous les ralentissements, mais on a tendance à les voir dans les ralentissements sévères. Alors, c'est pas comme si à la fin du cycle de la Fed en 2006, c'est pas comme si je savais exactement ce qui s'en venait en 2009. Je savais qu'il y avait beaucoup d'excès dans l'économie américaine. Je savais qu'il y avait un ralentissement. Je savais pas que la firme pour laquelle je travaillais à l'époque disparaîtrait assez rapidement, Bear Stearns. Alors, j'ai compris au fil du temps que les risques étaient beaucoup plus sévères que la majorité des gens, mais il faut comprendre que je rédige des analyses pour mes clients toutes les semaines. Alors, c'est un peu une tête qui est en évolution dans ce temps-là. Si on...
Attends, vous étiez encore chez Bear Stearns quand Bear Stearns a dû fermer les portes?
Non, mais en 2006, quand la Fed avait fini de sa hausse des taux, j'étais encore là. J'ai quitté en février 2007. Donc, 13 mois avant la fin de Bear Stearns.
Et personne chez Bear Stearns avait vu venir la chose, à l'exception de vous, bien sûr.
C'est pas... Écoute, ma dernière journée chez Bear Stearns, c'est pas comme si je savais s'en venait. Et puis, si quelqu'un m'avait dit que la firme avait disparu 13 mois plus tard, je l'aurais pas cru, honnêtement. Je savais qu'il y avait beaucoup de risques, mais j'imaginais pas ce qui s'en venait complètement. Alors, et je suis persuadé que j'avais... Il n'y avait aucun collègue dans la bâtisse. Je pense qu'il y avait 15 000 employés, des choses comme ça. Et pensait que le subprime était un problème parce que ça avait été une machine à générer des profits pendant des années. Alors, les gens avaient de la difficulté. C'est un peu ce qu'on appelle dans le behavioral finance. On appelle ça le anchoring bias. On s'habitue à quelque chose qui va bien et on a tendance à extrapoler. C'est un peu ce que les investisseurs font à la fin de nos hausses des taux. L'économie va bien et on extrapole que tout va bien aller pour toujours. Alors, c'était un peu un exemple parfait des surprises qui arrivent dans un ralentissement économique.
Je lisais Market Mind Games, un livre de Denise Scholl, et elle parlait justement de la crise de 2007-2009. Et ça m'est venu à l'esprit pendant que vous étiez en train de décrire un peu l'époque. Vous l'avez vécu de l'intérieur, de toute évidence. Et elle disait, en fait, comment expliquer que certains analystes, une minorité, ont vu venir le crash, peut-être pas dans sa totalité, mais ont quand même compris que quelque chose de très mauvais allait se passer, et que l'immense majorité ne l'ont pas vu. Quand on y pense, ils avaient tous accès aux mêmes informations et aux mêmes données. Et, Shaw, dans son livre, n'explique pas la chose en détail, mais en grande partie, c'est que ces gens-là avaient un gut feeling, comme on dirait en anglais, là. Instinctivement, ils regardaient les chiffres et ils disaient quelque chose que quelque part, qui ne fonctionne pas. Et c'est ce qui les a poussés à creuser la question et ce qui, au final, leur a permis d'anticiper la chose un peu. Ma question improvisée ici serait, comment est-ce qu'on explique, c'est pas qu'en finance et qu'en économie, en sciences politiques, ce que j'ai fait, on a le même problème. Face aux mêmes données, les gens partagent les mêmes données, mais on en vient à des conclusions et des théories complètement différentes. Comment expliquer que dans un monde aussi quantitatif que l'économie et les finances, on en vienne à des thèses complètement opposées?
Il faut comprendre que, premièrement, il y a 20 ans, il y a très peu d'analystes macro sur Wall Street, comme on disait un petit peu plus tôt. Alors, la majorité des stratèges qui sont des anciens analystes financiers qui comprennent leur compagnie très bien, ça va être les derniers à voir ce qui s'en vient. Alors, je pense que ça, c'est le premier problème. Écoute, c'est certain que sur Wall Street, il y a beaucoup de pression à avoir une vue positive. Et c'est pas un environnement facile. Hein? Je sais, la Fed fait sa dernière hausse des taux, je pense que c'est juin ou juillet 2006, quelque chose comme ça. Alors, dans mon modèle à moi, je le sais qu'il y a un ralentissement économique qui va venir. Ça va prendre quelques années parce que les délais sont très longs. Mais si quelqu'un me demande en 2006, même quand la Fed est en train d'hausser les taux, n'a pas terminé, qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est certain que je vais avoir une perspective négative parce que dans l'analyse macro, où tout commence à peu près avec la politique monétaire, bien, on vient de mettre des problèmes dans le système. Ce qu'on ne sait pas, c'est si quelque chose va briser. On sait que l'économie va ralentir. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si quelque chose va briser. La chose commune de tous les cycles économiques, de toutes les bulles spéculatives, en fait, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui transigeait des tulipes en Hollande dans les années 1836, je crois.
Ouais,
il y avait la bulle des tulipes. Et c'est l'être humain qui est le point commun de toutes les bulles spéculatives. Alors, c'est un peu ça. L'être humain est positif et est sujet à beaucoup d'influences psychologiques. Je pense que c'est ça qui fait que c'est très difficile de tenir une thèse.
Quand vous dites
quelque
chose...
Une thèse négative, surtout sur Wall Street.
Ah, la thèse négative. Ben, parce que les fonds et les grandes institutions veulent vendre, en gros, leurs services. Et c'est toujours... Ça se prête mieux quand on a une analyse positive ou bullish, comme on dit, sur les marchés.
Tout à fait, oui. Surtout encore plus sur les franchises, ils ont beaucoup de clients retail. Alors, je te dirais que quand on regarde les grandes banques, celles qui sont beaucoup plus dépendantes des clients retail, bien, ils ne vont jamais avoir un stratège qui va dire quelque chose de négatif. Alors, Bear Stearns, c'est pas comme si ma vie était très facile à l'époque parce que je sais qu'il y avait eu un meeting à me demander pour décider si c'était de me congédier ou pas. Mais c'était quand même une place à leur crédit. Ils m'ont laissé publier tous mes rapports, tout ça. C'était quand même une place où on pouvait avoir une opinion différente du reste de Wall Street. Il y a certaines boutiques où c'est simplement impossible. Donc, c'est pas vraiment une analyse indépendante qu'on a dans les papiers de recherche.
Ouais, donc, faire très attention quand on lit les rapports de recherche, comme vous dites. Passons à la période actuelle. Les différentes banques centrales du monde ont commencé une baisse des taux d'intérêt là, après une hausse assez importante, comme on l'a mentionné, d'à peu près 0 à 5 %, là, je résume ici. Avons-nous vaincu l'inflation ou pouvons-nous nous attendre à une remontée de celle-ci en Amérique du Nord, après Canada et États-Unis principalement, là, mais mondialement aussi?
D'une manière cyclique, oui, absolument. Et ce qui reste en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'inflation de base ou ce que les Américains appellent « core inflation ». Et ça, c'est un indice, c'est pas un indice précurseur du cycle économique, c'est complètement l'inverse. Aux États-Unis, c'est une organisation qui s'appelle le Conference Board qui détermine un peu quelle donnée est un indice précurseur, quelle donnée est un indice coïncident avec le cycle. Et ils ont même une catégorie d'indices qu'ils appellent des « lagging indicators ». Donc, ce sont des données qui tournent après le cycle. Et l'inflation de base, mais ça fait partie des lagging indicators. C'est un peu une des choses qui est frustrante quand on fait l'analyse parce que c'est une des données qui est très importante pour la Fed et on sait que c'est quelque chose qui tourne après le cycle. Et la Fed fait à peu près Et quand ils disent qu'ils sont dépendants des données, ils vont regarder comment les données vont évoluer, mais c'est pas exactement une organisation qui passe beaucoup de temps à faire des prévisions économiques. Ils ne sont pas très bons dans leurs prévisions historiquement. Et quand on dépend de données qui tournent après le cycle, on va tendance à hausser les taux plus qu'on devrait et à les couper plus longtemps qu'on devrait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée beaucoup plus de volatilité dans l'économie qu'on devrait vraiment avoir. Alors, c'est moi, je pense que cycliquement, l'inflation, c'est terminé, ouais.
C'est terminé. C'est quand même paradoxal, j'ai envie de dire, en ce qui a trait à la Réserve fédérale américaine, dans le sens où, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais j'avais lu un article, le nombre de personnes qui détient un doctorat en économie ou en finance ou tout domaine relié à la Réserve fédérale américaine est dans les plusieurs dizaines, voire une centaine d'entre eux.
Oh, pourtant, 297, le dernier chiffre que j'ai vu.
Voilà, je n'étais même pas proche. Imaginez, 300 personnes, grosso modo, qui ont un doctorat, un PhD, dans le domaine le plus pertinent qui est, et pourtant, on se dit, ils se trompent constamment. Comment expliquer ça?
C'est pas facile. Alors, deux choses. Premièrement, la Fed de San Francisco a fait une étude en 2017 où ils ont analysé les prévisions de la Fed et ils ont conclu que la Fed n'était pas très bonne dans les prévisions économiques. Alors, c'est leur mot, pas les miens. Donc, ils sont tout à fait au courant. Ce qui est triste, c'est qu'ils n'ont rien fait pour essayer de rectifier à ça. Je pense que c'est pas juste les économistes de la Fed, en fait, qui sont pas très bons dans leurs prévisions. Il y a beaucoup d'analyses qui démontrent que la majorité des économistes ont de la difficulté à avoir une récession qui est 6 mois devant nous. Et selon moi, quand j'essaie de réfléchir où moi j'ai appris à faire des prévisions économiques, c'est vraiment en économétrie. C'est en économétrie qu'on apprend, dans les modèles économétriques, qu'on apprend à faire des prévisions. Et la réalité, c'est que la majorité des économistes ne font jamais d'économétrie, ou très peu. Je pense que c'est quelque chose comme 2% des économistes qui ont un cours d'économétrie, mais qui ont quand même le titre d'économiste. Alors, je pense que c'est un peu un problème d'éducation, en bout de ligne. Tout le monde pense qu'ils peuvent prévoir l'économie, mais ils n'ont pas les outils pour faire ça nécessairement. Et alors, je pense que c'est une des raisons qui explique un peu ce qui se passe à la Fed, mais en bout de ligne, ben écoute, c'est 12 banques différentes. La Fed, c'est un système compliqué. Ils publient souvent des articles contraires l'un à l'autre. Je me souviens l'an dernier, je pense que c'était la Réserve fédérale d'Atlanta qui a publié un papier qui disait que les lags typiques entre la politique monétaire et l'impact sur l'économie étaient plus courts que qu'on avait vu historiquement. Et une semaine plus tard, la Banque de San Francisco publie l'inverse. Alors, c'est pas très coordonné. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun bon sens, mais c'est la réalité quand même. Alors, ils sont pas du tout coordonnés dans leur approche de referme. Mais je pense qu'en bout de ligne, c'est un problème qui est plus que la Fed, tu sais, qu'on le voit très visiblement, mais je pense que c'est un problème avec la profession d'économistes en général. Donc, ça ne s'applique pas à tous les économistes, mais à beaucoup qui n'ont simplement jamais été formés pour ça.
Ben oui, il y a peut-être une certaine liberté d'expression au sein de la Fed, dans le sens où tu vas avoir des opinions divergentes, au lieu d'avoir un discours unique là, qui prend pas de risque, si je peux dire.
Je sais qu'en ce moment, ce qu'ils nous ont montré au mois de septembre, c'est que leur modèle s'attend à voir que l'économie américaine va avoir une croissance de 2% l'an prochain, 2% en 2026 et 2% en 2027. C'est quand même assez incroyable comme coïncidence, non? Alors, il n'y a pas beaucoup de science, selon moi, qui fait partie de ça. Là. C'est un peu ça. Là. On va dire 2%, puis on va rester là-dessus pour les 3 prochaines années.
Ouais. Comment dire? Est-ce qu'il y a des facteurs à regarder en termes de sur lesquels garder un œil, je devrais dire, en termes d'inflation, mais aussi en termes de croissance? Encore une fois, pour le commun des mortels, là, mais n'ayez pas peur là, d'aller dans le plus complexe.
Pour l'inflation de base, en fait, quand on essaie de faire une prévision de l'inflation de base, donc l'inflation de base, c'est une grosse corrélation avec l'inflation salariale. Et en fait, c'est deux composantes quand je parlais un peu plus tôt du Conference Board et de leur Lagging Economic Index, c'est deux des composantes qui en font partie. Alors, quand on essaie de faire un modèle qui nous aide à faire une prévision, que ce soit de l'inflation salariale ou de l'inflation de base, mais ça commence tout le temps avec le marché de l'emploi. On essaie de trouver des variables qui nous disent si l'emploi est serré ou non. Et c'est ça qui nous permet de voir où l'inflation s'en va. Donc, mon commentaire original, quand je disais que l'inflation est terminée, c'est parce que à peu près toutes les variables sur le marché de l'emploi américain nous dit que les marchés ne sont plus serrés comme ils étaient il y a 2 ans. Et ça, c'est une recette pour l'inflation qui continue de ralentir.
Le marché de l'emploi, vous voulez dire, hein?
Oui, le marché de l'emploi, oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a plusieurs séries comme... il y a des séries qui ne sont pas très connues, comme ce qu'on appelle le « quits rate ». Ça, c'est le « quits rate », c'est le pourcentage d'employés qui démissionnent à chaque mois. Alors, les gens ont tendance à démissionner quand ils savent que c'est facile de se trouver un autre emploi. Donc, 2021, le « quits rate », je pense, est à son plus haut niveau historique. Et puis là, il a baissé d'une manière dramatique. Et ça, c'est un indice précurseur de l'inflation salariale, de l'inflation de base. Et ce que ça nous dit, c'est que dans la prochaine année, bien, c'est ça qu'on fait. Alors, selon moi, cycliquement, l'inflation, c'est l'histoire du passé, c'est terminé. Et je pense que la Fed a été assez claire là-dessus au mois de septembre. Ils sont clairement retournés un peu à leur modèle typique qui est axé sur une chose et c'est l'emploi.
Récemment, l'Arabie Saoudite a mis fin au système du pétrodollar qui durait depuis environ 50 ans et qui demandait là, que le pétrole soit acheté en dollars américains. Plusieurs voyaient la chose comme étant le modèle qui soutenait le dollar américain en termes de réserve mondiale. Entrevoyez-vous une dédollarisation de l'économie mondiale comme certains le prédisent?
Non. Je vois pas ça du tout à l'horizon, mais je disais que c'est un thème commun qui revient périodiquement que j'ai vu au cours de ma carrière probablement 4, 5, 6 fois. Et on parle tout le temps de la fin du dollar américain. Maintenant, c'est certain qu'il y a certaines variables qui sont alarmantes, comme le taux d'endettement du gouvernement américain. Il y a certaines choses, mais en bout de ligne, on a le taux d'endettement du gouvernement chinois, japonais, Angleterre. Alors, c'est pas comme si c'était un problème unique aux Américains. En bout de ligne, le dollar a un statut de réserve en grande partie à cause du consommateur américain. C'est le consommateur des exportations de beaucoup de pays à travers le monde. La Chine a compétitionné avec les États-Unis pendant leur boom économique qui est maintenant terminé. Alors, ce qui reste maintenant, c'est le consommateur américain. Donc, je pense que c'est difficile d'imaginer un monde où il y a une dédollarisation comme ça. Parce que quand l'économie mondiale ralentit, bien, il y a moins de demande pour les exportations du Canada. Donc, le dollar canadien est généralement sous pression. Il y a moins de demande pour les exportations de la Corée du Sud. Et à peu près tous les pays à travers le monde, quand on regarde... Le pourcentage des exportations dans leur PIB est plus élevé que celui des États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est un peu le choc absorbeur de l'économie mondiale de ce côté-là. Alors, en bout de ligne, tant qu'on ne changera pas cette dynamique-là, puis ce n'est pas quelque chose qui peut changer rapidement, je ne vois pas comment on aurait une dédollarisation. Est-ce que certains pays peuvent avoir des politiques comme ça? Bien sûr, mais il y en a eu beaucoup. Et... c'est la composante du PIB américain axée sur la consommation. Le fait que les États-Unis exportent très peu, les exportations seulement 11% du PIB américain. Donc, c'est un chiffre qui est plus bas qu'à peu près tous les pays à travers le monde, ou bref. Alors, moi, ça prendrait un grand changement économique pour me convaincre que les choses vont changer au niveau du dollar.
Est-ce que le dollar milkshake theory te dit quelque chose, ou vous dit quelque chose, pardon?
Non.
J'essaie de résumer, là, mais c'est un certain Brian Johnson, de mémoire, qui est un investisseur qui gère un family office. Et la théorie va comme cela. Tous les investissements, ou pas tous les investissements, mais disons que le dollar américain aspire les investissements des autres pays, et la fin du dollar américain ne viendra pas par sa faiblesse, mais par sa force. quand le DXY, qui est l'index du dollar américain, sera trop haut, quand le dollar américain va manquer de dollars américains sur les marchés mondiaux et non l'inverse, c'est là où ce que le dollar américain va monter en flèche en termes de force ou en termes de valeur, qui va faire que les dettes publiques dans le monde et même privées qui sont souvent en dollars américains deviendront impayables et donc vont mener à une crise qui mettrait fin, en fait, à l'hégémonie du dollar américain. Je ne sais pas si je la résume bien, je vais être franc, mais ça me semblait intéressant là, de voir ce que vous en pensiez.
Oui, mais ce que tu viens de décrire, c'est quelque chose qui est arrivé fréquemment dans les 50 dernières années. Dans à peu près tous les grands ralentissements économiques mondiaux, le dollar américain est à la hausse et ça cause des problèmes dans d'autres économies, typiquement des pays en émergence qui ont non seulement beaucoup de dettes, mais de la dette en dénomination de dollars américains. Donc, non seulement, comme prends l'exemple d'un petit pays en émergence, il dépend beaucoup des exportations. Donc, dans un ralentissement économique mondial, ils ont moins de revenus. Et parce que le dollar est à la hausse, bien, subitement, leur paiement d'intérêt sur cette dette-là est également à la hausse. Alors, c'est la recette typique d'une crise financière d'un pays en émergence. La partie que je ne suis pas, c'est pourquoi ça mettrait fin à l'hégémonie du dollar américain. Ce qu'on vient de décrire, c'est à peu près ce qui s'est passé dans tous les grands ralentissements économiques des 50 dernières années. Il y a tout le temps quelques petites économies qui ont des problèmes, mais le Fonds monétaire international doit intervenir, etc. En fait, la seule chose que je pourrais dire, c'est que maintenant, ce n'est pas juste les petits pays en émergence qui ont beaucoup de dettes. C'est des grosses économies comme le Japon, la Chine, l'Angleterre, etc. Mais je ne vois pas encore là pourquoi ça mettrait fin à l'hégémonie du dollar américain. Moi, je crois que ça y contribuerait plus qu'autre chose.
Encore une fois, ce n'est pas ma théorie, c'est ce que j'en comprends. Là. Mais j'avais compris que oui, en effet, à court terme, ou du moins à moyen terme même, là, ça renforce le dollar américain, mais ensuite, ça renforce la dépendance du dollar américain, ce qui causerait tôt ou tard certains pays à vouloir s'en distancer ou trouver un moyen alternatif, si on peut dire.
Oui, mais comment on fait pour se distancer de notre plus gros marché d'exportation? Alors, ça revient au point que j'ai fait un peu plus tôt. Tant qu'on ne changera pas les composantes économiques des économies mondiales, bien, c'est très difficile de se dissocier du dollar américain complètement. L'Arabie saoudite est capable de le faire parce que bien, les Américains ont moins de dépendance énergétique qu'ils avaient. Mais est-ce que ça va durer? Non. On verra.
Tout à fait. Sur un sujet similaire, c'est de la dette. Alors que la dette américaine gonfle à vue d'œil, soit de 10 milliards de dollars par jour, d'après certaines analyses, elle serait autour de 35 trillions de dollars américains en ce moment. Y a-t-il une limite à l'endettement public? La question se pose pour d'autres pays, notamment le Canada, la France, l'Angleterre, les mentionnés. Mais est-ce qu'il y a des limites à l'endettement public?
Les études académiques et l'histoire nous dit que oui, c'est pas toujours évident. Alors, si on regarde les modèles académiques sur l'endettement public, il y a certaines études qui nous disent que quand l'endettement public atteint 80 % du PIB, qu'on rentre dans une zone risquée. Il y en a 90, il y en a 100. Bien, les États-Unis sont au-dessus de tous ces critères-là à ce stade-ci. C'est certain que quand on regarde l'endettement public de la Chine, on est au-dessus de 300 %. Donc, on est dans un niveau complètement différent. Historiquement, la réponse à ta question, c'est un peu conditionnel parce que historiquement, tant que l'économie va bien, ben, il n'y a personne qui se préoccupe vraiment des niveaux d'endettement. Puis c'est la même chose dans les marchés boursiers, en fait. Les décotes des compagnies arrivent tout le temps dans les ralentissements économiques, où les bénéfices sont à la baisse. Et c'est là que les agences du crédit vont décoter compagnie IT à cause de leur niveau d'endettement. Et alors, c'est un peu la même chose pour les pays. C'est dans des ralentissements économiques où les revenus du gouvernement sont à la baisse. Les dépenses à cause des bénéfices sont généralement à la hausse. Donc, le déficit explose. Et pour un moment, bien, on a l'impression qu'il n'y a aucune solution au niveau d'endettement. Alors, c'est généralement les agences de crédit qui changent les choses. C'est un peu ce qui est arrivé au Canada à la fin des années 80 et début des années 90, où c'est un peu les agences de crédit qui nous ont forcés à adresser notre problème d'endettement public à l'époque. Ça a été pénible parce que la récession, qui était très courte aux États-Unis, au Canada, a duré quand même beaucoup plus longtemps. Je dirais que ça a changé aussi la perspective des Canadiens envers le fameux déficit. Je pense que pendant près de 20 ans, ça faisait presque pas de différence qui était élu. Tout le monde avait tellement peur du déficit que on n'aurait jamais eu des gros déficits publics. Alors, ça a duré quand même pour quelques décennies. Moi, je pense que c'est un peu l'expérience avec la pandémie qui a changé les choses. Et maintenant, le niveau d'endettement du Canada est quand même respectable comparativement à ce qu'on voit dans le restant du monde pour les économies développées. Et aux États-Unis, dans l'histoire du pays, donc depuis 1776, on n'a jamais eu un taux d'endettement aussi élevé par rapport au PIB, sauf très brièvement en 1944, je crois. Quand on avait des dépenses militaires exceptionnelles.
Pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, et puis, écoute, je me souviens même, après la crise financière, le taux d'endettement américain était, on parlait de 35 % du PIB ou quelque chose comme ça, mais il y avait une panique un peu aux États-Unis à cause de ça. Et ça a amené à l'émergence du Tea Party au sein du Parti républicain. Donc, c'était une obsession, c'était de balancer le budget. Ils ont fermé le gouvernement quelques fois sous Obama pour atteindre leur but. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un thème qui va revenir dans la politique américaine dans les prochaines années.
Mais quel est le taux d'endettement américain en ce moment? On a dépassé 100 %
ouais, PIB, on est au-dessus de 100 %. C'est sûr que les données sont tout le temps rapportées avec un lag, mais à ce stade-ci, on est un petit peu au-dessus de 100 %, ouais, dépendant de quelle donnée on est utilisé.
La Chine est à 300, le Japon, de mémoire, doit être proche de 250 % de son PIB en ouais, termes de dette.
À peu près dans ces données-là, oui.
Donc, ouais. Ben, en fait, je peux me permettre une question improvisée, là. Que pensez-vous du Modern Monetary Theory, la théorie monétaire moderne qui dit qu'on peut, l'endettement public n'a aucun incident, tout le temps aussi longtemps qu'on peut imprimer la devise avec laquelle on doit rembourser sa dette, donc imprimer le dollar américain pour rembourser une dette qui est dénominée en dollars américains, l'endettement public n'est absolument pas un problème. Et je résume encore une fois ici la théorie de façon très brève, là, c'est sûrement plus complexe que ça, mais somme toute.
Oui, si tu veux organiser un débat entre moi et du MNT, ça va me faire plaisir. C'est d'un ridicule incroyable. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas un chèque $1 million à tout le monde, si c'est vrai?
Ben, ils défendent aussi l'idée du revenu universel. Hein. Tout ça fait partie d'un ensemble, si j'ai bien compris,
oui, c'est
là,
au sein du MNT. Ben oui, c'est extraordinaire. Écoute, dans la pandémie, on a fait un stimulus assez exceptionnel. On a envoyé des chèques aux gens trois fois aux États-Unis et ça a contribué aux pressions inflationnistes. Et on parle d'un chèque qui était de $3 000. C'est pas des montants comme les proponents du MMT proposent. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre, honnêtement. Et c'est circulaire comme argument. C'est pas sérieux, selon moi.
Parfait. Finalement, dernière question. En 2023, vous aviez prédit une situation économique, je cite ici, apocalyptique au courant des années 2024-2025. On y est. Jusqu'à maintenant, on semble avoir évité une telle situation. Il ne semble pas y avoir de récession non plus à l'horizon, même s'il y a un certain ralentissement qui est palpable, si on peut dire. Êtes-vous toujours aussi inquiet et pessimiste pour l'économie à court ou moyen terme?
Oui, tout à fait. Écoute, premièrement, en 2006, si tu m'avais demandé c'est quoi le dénouement de tout ça, ben, je t'aurais donné la même réponse. Et j'aurais eu l'air d'un ego le restant de l'année. J'avais eu l'air d'un ego en 2007. Et puis à un moment donné, j'avais eu l'air brillant. Et c'est un peu ça qui m'est arrivé. Alors, quand à la fin 2023, je me souviens plus de quand, mais on me demande c'est quoi la. Qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr que c'est. Moi, j'ai une perspective très négative. Je te dirais que à la même époque, ou une époque que je rédige des papiers, je réalise pour mes clients toutes les semaines, mon message aux clients, c'était que le marché était pour rebondir. J'ai fait trois gros appels de conférences là-dessus sur plusieurs mois. Les forces macro, ça bouge d'une manière très, très lente. Et on vient tout juste d'entrer ce que j'appellerais la période risquée. On a maintenant dépassé l'anniversaire de 2 ans de la première hausse des taux. Alors, historiquement, c'est là où les données commencent à changer. Et ils vont changer pendant encore 2 à 2 ans et demi après la dernière hausse des taux. Donc, on en a pour un bout. Et ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Et donc, quand on regarde l'anniversaire, le deuxième anniversaire de la première hausse des taux, c'était au mois de mars cette année. Et comme le sait, le taux de chômage a commencé au printemps à monter un petit peu plus haut. Alors, il fait exactement ce qu'il devrait faire et il devrait continuer à être à la hausse pour encore 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Alors, on entre dans la période risquée des marchés financiers. Alors, je n'ai pas une perspective très différente. Et comme je disais au début, c'est dans un ralentissement économique. Ce n'est pas généralement les problèmes qu'on connaît sont les grosses surprises. On sait qu'on a un endettement public exceptionnel comparativement à ce qu'on a eu historiquement. On sait qu'il y a des problèmes avec le commercial real estate aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas devenir sérieux, mais c'est des choses qui sont connues. C'est des choses qu'on ne connaît pas qui sont les grosses surprises. Donc, le subprime, quand je te dis que je quitte Bear Stearns en février 2007, il n'y a personne qui pense que le subprime est un problème. Puis même les premières rumeurs, c'est comme septembre 2007, le marché n'est même pas encore à sa hausse. Puis on commençait à entendre des histoires de problèmes de liquidité pour certains papiers commerciaux, etc. Alors, c'est pas avant vraiment 2008 que le marché commence à débandade et que l'économie commence à avoir une approche très, très différente. Alors, je donnerai la même réponse aujourd'hui. Quand on parle du cycle au complet, absolument, ça va être. C'est un environnement très risqué où on est en ce moment. La bonne chose, c'est que la Fed a commencé à couper les taux. Alors, on peut commencer à penser à la reprise éventuelle, mais on parle de 2 ans à 2 ans et demi. Donc, on parle de 2026 très tard ou probablement plus 2027. La Fed a coupé les taux en 2007. On n'a pas eu de reprise économique avant vraiment très tard 2009. Alors, on est un peu dans le même bateau, si on veut. Il faut vivre le ralentissement avant de pouvoir vivre la reprise.
Je suis curieux de peut-être une dernière question. De connaître l'opinion d'un insider, si on peut dire, de Wall Street sur un film comme The Big Short. Qu'est-ce que tu as peut-être en pensé?
Je connais beaucoup
Le livre, c'est un livre, soyons francs, c'est un livre qui a
Oui,
été
oui,
transformé en
oui.
film.
J'avais un peu front row seat
Pas exact.
pour le Big Short. Puis je connais beaucoup des investisseurs qui sont dans ce livre-là, dans ce film-là. En fait, j'en ai un qui est encore mon client à ce jour.
Pas Michael Burry.
Non, pas Michael Burry. Écoute, c'est certain que ce film est adapté pour être pour le cinéma, mais c'était. D'un côté, il y a certaines choses qui sont exagérées. D'un autre, il y en a que c'est l'inverse. Il y avait
Ah oui.
des situations absolument extrêmes. Ah oh, oui, absolument. Tout à fait. Oui.
La réalité était pire, ou du moins moins exagérée que plus exagérée que le film, je peux dire.
Sur certains. Oui, oui, absolument. Ça dépend des choses dont on discute, mais oui, tout à fait. Tout à fait. C'était extrême. C'était
Wow.
tout à fait
Avez-vous des
extrême.
recommandations de films financiers plus intéressants que d'autres pour ceux qui veulent commencer leur initiation au marché, si on peut dire,
Oui,
avec un
c'est
film?
un peu gênant, mais celui-là, je pense
Il est bon, ouais.
qu'il est très bon. C'est quoi? C'est Margin Call, qui est l'autre aussi,
Ah,
qui
très bon
couvre.
aussi, oui.
Oui, il est très bien fait. C'est gênant un peu, mais tu sais que j'ai jamais vu le film Wall Street. Tout le
Ben.
monde est surpris quand je leur dis ça, que j'ai jamais vu
Avec
le
Martin
film Wall
Sheen, là.
Street. Oui, c'est ça, avec Martin Sheen. Puis je pense qu'à ce moment-ci,
Ouais.
je suis mieux de ne pas le voir, je pense.
Ah, ça se pourrait, ouais. Je l'ai peut-être vu, là, mais honnêtement, je ne m'en rappelle plus.
Oui, mais je pense que c'est au début des années 90, quelque chose comme ça. Là. Donc, ça date
Exact.
quand même d'une période très, très différente.
Tout à fait. François Tarrant, merci beaucoup. Et mot de la fin, peut-être?
On se croise les doigts que le ralentissement économique va être doux et qu'il n'y aura pas trop de surprises.
Où est-ce qu'on peut trouver le Macro Institute?
C'est themacroinstitute.com.
Parfait. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci bien.